France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
La scène a été diffusée sur le réseau social X, anciennement Twitter. Vêtue de l'anorak jaune et vert fluo des agents de propreté urbaine de la ville de Paris, Rachida Dati, la ministre de la Culture, attrape une poubelle grise, la tire sur ses roulettes, la charge sur la benne à ordures, qui renverse alors son contenu dans le grand bac. Et puis, elle grimpe sur le marchepied. En campagne pour les municipales, la candidate joue au prolo, mais n'hésite pas à donner de sa personne pendant quelques heures. Elle ne fait pas semblant, il faut dire. Elle empoigne les sacs poubelles avec énergie et les balance avec enthousiasme. Elle promet au passage du matériel plus moderne, des nouvelles technologies, un service mieux organisé, une ville encore plus propre. Son concurrent, Emmanuel Grégoire, a sauté sur l'occasion pour rappeler que, je cite, « les femmes et les hommes qui se lèvent à 4 heures du matin pour nettoyer nos rues ne sont pas des accessoires de campagne », fin de citation. Sauf qu'Emmanuel Grégoire avait fait tout pareil en 2014 et s'était affiché sur les réseaux sociaux en tenue d'éboueur, si on en croit le Huffington Post. À quoi il a rétorqué que oui, mais lui, c'était 6 mois après les municipales. Touché. Donald Trump, lui aussi, l'année dernière, avait tombé la veste et mis l'anorak orange des éboueurs américains. Bref, les agents de propreté passionnent les hommes et les femmes politiques, mais généralement pas très longtemps. Allez, un petit tour de benne, c'est trop fun et n'oubliez pas de voter pour moi. Nous, au pied sur terre, on s'intéresse aux prolos tous les jours et aussi aux aristos et parfois même aux fachos. Voici donc deux histoires d'agents de propreté qui ne ressemblent pas à ceux qu'on imagine, par Aladin Zayan.
Je m'appelle Zakaria, j'ai 40 ans, je vais boire à la ville de Paris. Je suis arrivé dans les années 90. Au début, j'habitais à Belleville, pas très loin d'ici, là. Et mes parents, ils ont obtenu un HLM à la cité Gaston Pinault. C'est entre Place des Fêtes et Porte de Pantin. Moi, mon objectif réel, c'était vraiment de finir avocat. À Gaston Pinault, on a un grand avocat qui s'appelle Olivier Kamensky, qui venait ici, qui faisait du graphe et qui traînait... avec les anciens d'ici, et c'était une référence pour nous. D'ailleurs, même quand on faisait des conneries à l'époque, c'était lui qu'on appelait direct. Et voilà, moi, je m'étais dit qu'en étant jeune, je vais finir avocat. J'ai réussi à faire un peu des études. Je suis arrivé jusqu'à un bac économique et social. Mais malheureusement, comment ça se passe aujourd'hui, même à l'époque, c'est pas fait pour toi, vas-y, va dans le bâtiment, va dans le social, va dans la comptabilité. Malheureusement, nos parents ne connaissaient pas très bien le système. Pour eux, juste t'avais un métier, t'étais heureux, ça suffisait. Voilà, on a fait de l'entrepreneuriat, je vais te dire comme tous les mecs de quartier. On est des entrepreneurs nés en soi, tu vois, le système D, etc. Donc, on a commencé à monter des sociétés, de conseils, de bâtiments. J'étais dans la pompe à chaleur, après dans la formation... J'avais un restaurant brésilien à République, tu vois. J'étais sur un chantier de pompe à chaleur. Ce jour-là, en plus, je venais juste pour vérifier un chantier. Je me rappelle, j'étais en Prada, bien habillé. Un des ouvriers il me dit « Ouais, Zach, s'il te plaît, aide-moi à porter le groupe extérieur. » Et je le porte. Et ça pèse quoi, peut-être 25 kilos. Mais il fallait bien le soulever pour le mettre sur le châssis. Et j'ai comme un blocage, ça, j'arrive plus à respirer. Je me rappelle, c'était à Creil. Et il me dit, viens, on t'amène à l'hôpital. Je lui dis, ne me ramène pas à l'hôpital, ramène-moi à la mosquée de Creil. Tu vois, j'ai cru que j'allais claquer, genre. Et moi, j'étais là à l'imam, il a dit, moi, je veux pas de problème. Il a appelé les pompiers, m'ont ramené à l'hôpital de Creil, bordel, tout ça. Les chirurgiens, je me rappelle, il m'a dit, si t'aurais pris l'avion, là, t'aurais claqué en plein vol. Donc, ça jouait, je vais pas dire quelques minutes ou quelques heures, mais voilà, pas loin. On était pas loin du, du Maccabé. Suite à mon pneumothorax, c'est là où après, voilà, je faisais rien, je galérais, etc. Il y avait un grand monsieur, un grand délégué syndical qui habitait chez nous à Danube, monsieur Bundassé, pour le citer, qui m'a dit, viens, mon fils, je vais te faire rentrer à la ville. Et de là, voilà, CV, et on est rentré à la ville de Paris en tant qu'éboueur. C'était en 2010, si ma mémoire est bonne. J'avais 24 ans, 25 ans. Je me suis dit, voilà, malgré que c'est un métier pénible, etc., mais ça reste un métier d'utilité publique. Quand tu nettoies la rue, les gens ils disent merci. Quand tu enlèves un encombrant sur la route, on dit merci. On a vu même pendant le Covid, on a vu même pendant la grève, quand les éboueurs ne travaillent pas, on a vu dans quel état Paris s'est retrouvé. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et j'ai eu la chance de travailler directement dans le Marais, dans les beaux quartiers, c'était chic. C'était pas comme dans les quartiers pourris où c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est quoi? Là-bas, tu ramasses le ticket de métro et la poussière de pollen. Après, tu pouvais tomber aussi sur des bijoux, tu peux trouver un peu d'argent, etc. Donc voilà, j'ai retrouvé ma place, j'étais bien. On avait la vue sur l'église à Notre-Dame. C'était chic, tu vois. T'étais dans le Marais, pas loin du quartier Saint-Michel. C'était vraiment un bel endroit, c'était propre. J'ai eu la chance de faire 13 ans là-bas et après, suite à un changement de familial, déménagement, etc., je suis revenu dans mon quartier arrondissement de cœur, le 19e arrondissement. Bon, après, là, c'est autre chose. C'est le jour et la nuit. Entre le Marais et le 19e, c'est le jour et la nuit. Après, c'est les quartiers populaires, on va dire. Je suis arrivé par accident, tu vois. Les gens ils me disent, mais Zach, qu'est-ce que tu fous dedans? Qu'est-ce que tu fous dedans? T'as rien à faire dedans, passe tes concours. Mais c'est un métier que j'aime. Mon père, il m'a toujours dit, Zach, reste en bas et le peuple, il t'aimera. C'est un métier que j'admire et qui est reconnaissable. Je suis fier. Jamais je cracherai sur ce métier-là. C'est un métier que j'espère, voilà, qui se perdra pas, tu vois, avec les futures municipales qui arrivent. On parle beaucoup de privatiser le métier, etc. Mais c'est un métier, voilà, qui est d'utilité publique et c'est un métier humain, avant tout. Pendant que je faisais ma tournée dans le 19e, pas loin de Simon Bolivar, il y a eu un braquage de banque. L'alarme a sonné. C'était tôt le matin, je crois que c'était écoute, 7h du matin. 7h du matin, les gens ils dorment encore, à part les pauvres parents immigrés qui prennent les transports pour aller bosser. Mais sinon, en soi, c'est une avenue assez vide. Et t'avais des policiers qui cherchaient à gauche, à droite, et ils sont tombés sur moi, voilà. Ils pensaient que j'étais un des cambrioleurs ou braqueurs, et ils m'ont braqué. Bon, avec les violences policières qu'on a subies, on va pas dire que c'était habituel, mais bon, tu vois, là, j'étais habillé en tant qu'éboueur. C'était quand même inquiétant. Et ils m'ont dit, vous faites quoi ici? Vous travaillez? Il m'a dit, si vous travaillez, montrez-moi votre dépôt pour vérifier que j'étais pas un des braqueurs. C'est là où je les ai ramenés, voilà, au dépôt, où on change, etc. Du coup, ils se sont calmés, tu vois. Quand on est éboueur, quand il nous arrive ce genre de problème-là, etc., on est censé les remonter. Après, voilà, je dis pas, on est pour la police, on sait que parfois ils merdent, et parfois ils font leur boulot. Là, voilà, c'est vrai que la manière comment ils ont abordé les faits, c'était un peu brutal. Moi, braqué, c'est pas la première fois. J'étais jeune, ils m'ont braqué au pont parce qu'une personne s'est fait voler son téléphone. J'avais de la chance de connaître un major, paix à son âme, Jeannot, et il a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec Zach? Il n'y a rien à voir, lui, allez. Mais voilà, ils ont fait leur boulot. Bon, après, avec ma tête, hein, ils se sont pas dit, ouais, lui, c'est un simple éboueur, vu qu'on a un peu la tête cramée. Et... Ouais, on m'appelle le Mexicain, moi, à la base. Après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Ça devrait pas être normal, mais voilà, on a grandi comme ça, on nous a adapté. J'aime pas ce mot-là, mais tête de coupable, tu vois. C'est pour ça que maintenant, voilà, on essaie de s'habiller proprement, pas à paire de TN, Under Armour et casquette, comme la nouvelle génération d'ailleurs. Combien de fois je leur dis, changez de style, les gars, vous êtes des beaux gosses, vous avez les cheveux longs. Habillez-vous en italien, tu vois. C'est compliqué, mais bon, on essaye. D'ailleurs, c'est ce qu'on inculque aussi à nos enfants, tu vois. Quand tu vois la police, de ne pas courir, de garder son calme. Les violences policières, je ne vais pas dire que c'est un quotidien, mais il y en a plein. Voilà, malheureusement, ils se sont retrouvés au placard parce que ce n'était pas eux. Mauvais moment, mauvais endroit. C'est le quotidien des habitants des quartiers populaires, je vais te dire. Les boueurs, c'est un métier qui n'est pas reconnu, que ce soit par les institutions, par certains habitants qui manquent de respect à ce métier-là, et même qui n'est pas bien payé. Un jeune qui rentre aujourd'hui, il est à 1 800 euros. Alors que moi, quand je suis rentré, maintenant ça va faire bientôt 17 ans, ouais, 16 ans, j'étais à 1 300 euros, net. Avec 1 300 euros, comme je dis aujourd'hui, c'est une paire de chaussures chez Berluti ou chez Dior. Et en fin de carrière, un éboueur, il est à 2 500 euros. C'est pas cher payé pour le métier qu'il fait, en sachant que c'est un métier pénible. Il travaille les 4 saisons, il y a la baigne, il y a le désherbage, il y a le bruit, il y a la pollution. On les voit, hein, quand ils finissent, les pauvres, ils sont cassés. Et même s'ils partent à la retraite, ils font pas long feu. Hein. Il y a eu plein d'exemples, on en a enterré pas mal, paix à leur âme, là, ces derniers temps. Et ils ont fait à peine 6 mois, 3 mois, parce que voilà, du jour au lendemain, ton rythme, même ton corps, il arrête tout. Un éboueur, en règle générale, pour ceux qui habitent loin, ils vont se lever à 4h du matin, ils vont commencer à 6h du matin, ils vont finir à 13h48, certains à 17h. Donc voilà, ça reste quand même un métier pénible. Je suis responsable syndical dans le 19e arrondissement. On est représentant, on parle avec les politiques, on négocie avec les politiques. De temps en temps, on fait des coups de coups syndical, je ne vais pas dire des putsch, mais voilà. On fait des grèves, on manifeste, on fait des blocages. Des anciens se sont battus pour nous, pour le principal là, les échelons. Et c'est pour ça que moi, voilà, pourquoi je me suis syndiqué. C'est pour faire honneur à ces gens-là. Comme je dis, ils se sont battus pour nous, à nous de nous battre pour eux et pour la génération qui arrive. Tu gagnes, je gagne, tu perds. Je perds, on est tous dans le même bateau. Et on est combattants, on se bat pour tout, tant que ça reste dans le cadre de la loi et juste. En face, on a des aristocrates, on a des institutions. C'est pas eux qui vont te donner une prime ou te faire un cadeau. Et c'est la vie. À l'école, ils nous mettaient cette mauvaise image de l'éboueur. Ah, si tu travailles pas bien à l'école, tu vas finir éboueur. Nous, on a vu beaucoup de parents des quartiers populaires qui faisaient ce métier-là. On a eu la chance d'avoir M. Labachi qui nettoyait la rue de Gaston Pinault. M. Labachi, paix à son âme, et M. Bounda Cissé, c'était des hommes. D'ailleurs, quand ils allaient en grève, c'était pas comme nous aujourd'hui, tu fais un jour ou deux jours de grève. Eux, quand ils allaient en grève, c'était des 1 mois, 3 mois. Il y a même eu une époque, ils avaient fait la grève, l'armée descendait. Pour moi, ces gens-là, on leur doit tout. Même la tenue qu'on a aujourd'hui en tant qu'éboueur, c'est grâce à eux. Avant, les éboueurs, ils travaillaient avec leur propre tenue. Pas de chaussures de sécurité, pas de gants, pas de pantalon, pas de veste. C'est eux qui sont battus pour ça. C'était des hommes, des braves. Et moi, je fais beaucoup référence à eux, parce que c'est eux notre héritage, malgré qu'ils se perdent. Et je me rappelle, bon, j'étais jeune, mais Chirac, il les appelait mes petits bonhommes verts. Mais c'est eux qui tenaient la ville. Si tous les éboueurs de Paris font la grève, Paris, c'est fini. Hein. Il n'y a plus personne qui circule. Je fais beaucoup référence à eux, et c'est des personnes que j'admire et je respecte.
France Culture. Les pieds sur terre.
Moi, je m'appelle Djamé Cissé, d'origine sénégalaise, arrivé ici en France en 2010. Et je peux dire que je suis un homme polyvalent, mais non, je suis un agent d'éboueur, ville de Paris. Et là, ça fait bientôt 4 ans que je travaille avec la ville de Paris en tant qu'éboueur. Je suis arrivé en France en 2010. Et quand je suis arrivé, ça m'a pris un temps pour observer comment ces pays fonctionnent, les codes, les règles. J'ai fait un an en tant que sans-papier. Au bout de deuxième année, j'ai eu titre de séjour. Et quand j'ai eu ce titre de séjour, tout de suite, je voulais faire métier d'éboueur. Parce que je me dis, si je fais ce métier-là, en fait, je vais contribuer à quelque chose de collectif. Parce que moi, j'ai envie de servir cette nation qui m'a tout donné, de leur rendre ce qu'il m'a donné. Et je ne me vois pas faire d'autres métiers si ce n'est pas ça pour contribuer à la nation. J'ai travaillé comme agent aéroportuaire. J'ai fait bagages, comme je fais nettoyage des cabines des avions, comme j'ai travaillé dans les TGV, agent à bord, comme restauration, des foyers médicalisés. En fait, à chaque fois, les métiers-là, peut-être je gagne bien, mais je ne me vois pas être utile à la nation. Je me dis non. Après, quand j'ai postulé à la mairie de Paris pour la première fois, on m'a dit, tu ne peux pas faire ce métier si vous n'avez pas la nationalité. Il faut être européen, citoyen européen pour être agent des bords avec Ville de Paris. Et c'est ça qui m'a motivé d'aller formuler ma demande de nationalité. Et quand j'ai fait ma demande de nationalité, Dieu m'a aidé, je l'ai obtenu vite fait. Même pas au bout d'un an, un an et demi, je l'ai déjà eu. Et comparé par rapport à une de mes camarades ou mes collègues, etc., qui ont mis beaucoup de temps avant de l'obtenir. Et c'est comme ça que je suis atterri à la mairie de Paris. Et une fois, moi, je suis là, je me dis, voilà, je suis arrivé à Ville de Paris, moi, je vais tout changer. En fait, c'était l'histoire d'une femme qui était enceinte. Et j'étais en train de travailler sur les rues de Paris. Je voyais cette dame triste, elle n'est pas bien, etc. Et j'ai essayé de m'approcher d'elle pour comprendre. C'est une dame blanche, bien habillée, bien présentable. Moi, quand je travaille sur les rues de Paris, il faut comprendre. Je ne fais pas que travailler. J'ai essayé aussi de comprendre la société, comment les gens y fonctionnent, observer. Et en regardant, je vois cette dame dans une situation délicate et j'ai essayé d'apporter secours. Je lui ai dit, mais madame, il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez? Elle ne voulait pas me répondre. Je lui ai dit, madame, si vous ne me dites pas qu'est-ce que vous avez, je ne vais pas vous laisser tranquille. D'ailleurs, je vais même appeler la police parce que je ne vais pas vous laisser dans cet état. Une femme comme vous, comment vous êtes comme ça là? J'ai peur qu'il y a quelque chose qui vous arrive. À force de la taquiner tout ça là, elle me dit, ok, tu veux que je te suive avec mes problèmes? Je dis, bah, bien sûr. J'ai dit, mais c'est quoi? Ah, je suis enceinte de mon copain. Depuis que mon copain a su que je suis enceinte, il m'a quitté. Je dis, oh là là, et vous pleurez pour ça, madame? Il dit, bah oui. Je dis, mais ce copain-là, est-ce que vous l'avez aimé vraiment? Il dit, oui. Je dis, madame, d'ailleurs, c'est quoi aimer? Vous voyez, là, je vais jouer un truc de psychologue, philosophe, tout ça là, un éboueur qui va jouer en mode psychologue. Je dis, madame, laissez-moi vous expliquer ma vision d'amour. Peut-être ça va vous aider. Ou vous aimez les gens parce qu'ils ont quelque chose dans la tête, ça s'appelle l'admiration. Ou vous aimez les gens parce qu'ils ont quelque chose dans la poche, ça s'appelle du profit. Mais aussi, vous pouvez aimer les gens sans le vouloir, sans le savoir, ni comment, ni pour. Peut-être ça, on peut appeler l'amour. Même ça, ça peut être éphémère. Qu'est-ce qui mérite de vous, votre larme comme ça pour pleurer? Parce qu'il n'a aucun de ses principes. Pourquoi vous devez aimer ces genres de personnes? Et pourquoi vous devez pleurer pour ces genres de personnes? N'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi, madame? Il dit, ouais, jusqu'à là, je suis d'accord avec toi. Et commence à être apaisé. Je dis, d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire, hein, mais je ne sais pas si ça va vous vexer. Et quand vous pleurez, comment vous êtes moche? Je dis, vous allez arrêter de pleurer. Je dis, oh là là, c'est incroyable. Elle commence à rigoler. Je dis, ah, là, vous êtes belle. Après, cette dame, Franchement, j'ai gagné sa confiance, tout ça là. Je dis, écoute madame, vu que vous êtes enceinte, vous savez qu'une fois que le bébé est là, vous avez besoin des couches, etc. Moi, j'ai pas grand-chose. Hein. Je ne suis pas ni riche de compte, ni riche de poste. Le seul richesse que j'ai, c'est le cœur. Cet cœur-là, quand vous avez besoin, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, je vous l'offre. Mais le pot que j'ai, c'est 10 euros. J'ai 10 euros dans ma poche. Tiens, je vous donne ça. Alors là, si vous avez envie d'anticiper à acheter des couches ou des lits, etc., je commence à vous donner ça et je vous laisse mon numéro. Au cas où vous avez besoin de moi, appelez-moi quand vous voulez. Cette dame ne revient pas. Elle était vraiment heureuse à l'instant. J'ai capté, voilà, j'ai participé à quelque chose. Dans ma tête, je dis, oh là là, je suis fier de moi-même. À la fin, quand on a discuté tout ça là, puis on a fait des blagues, et on rigolait et tout ça là, la dame m'a montré un produit. Tu sais, c'est quoi ça? Je dis non. En fait, ils avaient décidé, quand je rentre chez moi, je vais mettre fin à ma vie. En fait, elle sait très bien si elle prend ça, ça y est, elle va se suicider en fait. Mais elle m'a montré, elle dit, je voulais prendre ça, arriver chez moi pour mettre fin à ma vie. Mais grâce à vous, vous venez de changer ma vision d'amour, ma mentalité. Parce que, écoute, moi j'ai tout dans ma vie. La seule chose que je n'ai pas le sens, c'est ce côté amour. Sinon, je suis quelqu'un qui travaille bien, j'ai les moyens qu'il faut. D'ailleurs, viens, après ton travail, viens, on va aller chez moi. Je dis, non madame. Je ne peux pas aller avec vous. Il dit, ok, est-ce que vous pouvez m'attendre ici? Je dis, ok. Je sais que c'est un chef d'entreprise, même si elle n'a pas voulu tout me dire, mais je sais que c'est une personne très, très fortunée. Et cette dame est partie chercher un chèque pour me donner. Mais si je vous dis les montants, vous n'allez même pas me croire. Vous allez dire, mais c'est un mythomane, ce gars-là. Mais je me dis, c'est un chèque de 20 000 euros. Franchement, je n'ai pas voulu prendre. Et pourtant, Dieu seul le sait. S'ils avaient pris cet argent, bah ça m'a soulagé. Avec tous les problèmes financiers qu'on a dans ce monde, surtout en France actuelle, comment la vie ça coûte cher, etc. Et on n'a pas ces moyens. Moi, bah, franchement, j'irais content, mais non, je ne peux pas. Et évidemment, j'ai refusé catégoriquement de prendre cette somme. Je dis non, madame, je n'ai pas besoin. Franchement, merci pour cette intention. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, le fait que je vous apporte mon aide et que ça vous ramener sur cette terre, franchement, pour moi, c'est le plus grand richesse que je peux avoir dans ce monde. Je ne sais pas si ça va m'arriver une autre histoire comme ça, mais c'est une histoire qui m'a marqué dans ma vie. Bah, une fois avec cette histoire, après, cette dame m'a appelé, elle s'est casée, malgré qu'elle est enceinte, elle a trouvé un amoureux. Et ça a changé sa vision d'amour. Des fois, il faut dire les choses casses. De dire, copine, écoute, c'est vrai, t'es en train de pleurer, mais arrête. Voilà la réalité, etc. Même à l'instantané, quand il le parle, il n'a pas compris. Mais plus tard, peut-être, ça va le faire une réflexion. Ça va le ramener dans les raisons. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas une communication sincère entre les gens, et je trouve ça dommage. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de divisions dans ces pays-là, parce que tout le monde a ce côté négatif de l'autre. La nation, il dort. Si je dis on dort sur ce côté de division. Parce que apprendre à se parler, apprendre à se côtoyer, et apprendre à aller dans des zones où on n'a pas l'habitude de partir, pour juste s'apprendre à connaître de l'autre inconnu. Et c'est comme ça qu'on peut construit en nation hyper fort, hyper puissant. Mais c'est ça aujourd'hui, en fait, à force d'observer, les gens, ils ont plus envie de se donner. Et qu'est-ce que nous, on doit faire aujourd'hui de dire à tous ces gens-là que vous êtes, c'est vous. Voyez, parce que où tu vis, c'est là-bas, c'est chez toi. Moi, je vis aujourd'hui en France, mes enfants vivent en France, on est chez nous. Voyez, et on est obligé de s'adapter à ces pays-là, etc. Mais comment les gens, ils vont faire en sorte que nous aussi, on se sent chez nous? C'est ça les problèmes, les difficultés qu'aujourd'hui, que l'immigration, on rencontre, les difficultés et ce jugement de longueur de la journée, que ce soit les Noirs et les Arabes, vendus, va, etc. Mais pourtant, malgré toutes ces insultes, moi, je continue à servir, comme je dis, servir, c'est d'aimer. Je vais continuer à encore servir. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré tous ces obstacles, je vais continuer à servir. dans mon métier aujourd'hui, je suis plus que heureux. Parce que ce métier-là, on ne l'a pas choisi pour gloire, ni pour buzz, ni pour l'argent. On l'a choisi pour servir. Et du coup, nous, on est là pour servir la nation. Si la nation est satisfaite de ce qu'on fait, bah, évidemment, nous sommes heureux. Et c'est tout ce qu'on cherche. On veut servir cette nation, leur confort. Ouais, on veut leur apporter ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier.
Aéroport de Bogota, pareil au top, c'est lunatique, pit. Départ dans 10 minutes, en cas de doute, planque la coke dans le coq. Briquer les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Shooter tout ce qui bouge, on se retrouvera là-haut, vous savez. Tout de suite, le type tient louche, sa sueur coule comme si c'était douche. Et tel tous les fous qui voulaient me doubler mes roubles, je touche. C'est quoi le gros? C'est quoi ton blême pro? Merde, fils de pute, t'as un micro, t'es qu'un gros stupide. T'es trop stupide, bouge pas, je vais te buter, sale flic. Je viens de buter un sale flic, pute, couvre ma fuite vite, j'ai mon Wiggles. D'où je puise toutes mes sources fouines. Je fouille les rues et tombe sur mon pote Steve. Il me demande qui je veux. Se prive pas pour Bouka, Bloopalooza, son petit neveu. C'est Bloopalooza, c'est fou ça. Ce coup-ci il saura ce qu'il en coûte d'avoir voulu souhaiter doubler ma mafia. Les seules lois.
C'était Deux éboueurs et une bonne action, un reportage d'Aladine Zayan réalisé par Louise André et mixé par Dali Yaha. Merci à tous les deux, à Zakaria et à Diamé, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Mina Morel.
Oxmo Poutine sur la route pour aller chez Bloopalooza, une luxueuse Lexus rouge, vite fumée me file de peu. Topé au péage, les carreaux de la caisse en question coulisse. Une maîtresse sec, les jambes sont masquées, mon chauffeur en caisse. Je me laisse tomber, un, laisse rouler, deux, grenades sous les roues, des boum boum, beaucoup d'hommes en fumée. J'arrive à pied, fatigué, un gars fait le quai à l'ascenseur, je bute. Je monte au 7 et je fais gaffe à Tony. Et au 7, Tony m'intercepte. Un 357, longue autonomie. Les douilles tombent, l'ascenseur est niqué. Tony se fige, panique se rip ou flip ou suis-je. Il se pose la question, qui peut buter Oxmo Puccino. Grosse réponse pour Tony quand la porte explose. L'ascenseur puait, j'avais choisi d'user mes wallabies. T'abuses, Tony t'as usé toutes tes balles. Je sais que j'ai raison, ma ruse, usé ta vie, j'ai mon rusi. Je me retourne, Blue, t'as fait une lourde bourde. En bref, tu m'as donné au keuf, j'ai peur pour toi. Pourquoi tu m'en cesses ta farce? Parce que si t'es pas mais, toi, mais t'es qui? Le siège de chalet, tu souilles mes clarks. Alors trois trucs perçus, son fils de putain de crâne. Pour trois traits, grand trou, grand comme mon crew. La mafia. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie, bois à la tienne et à la santé. La mafia. Je finirai pas comme Scarface, percé de partout, blanche dans la coque et crie en fuck you, m'en veux fuck. La mafia. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue, vise le taille, n'hésite pas si on injure. La mafia. La monnaie. La le sexe, mafia, les flingues, time bomb. Le lendemain 16h, je bec mes camflecs et ce réflexe. Je presse le hot de la TV de Vince Celtic. Et bien, le type qui flippait son slip trempait plus que celui des filles de clip exécutées d'être un sosie. Et que le FBI guette ma black mafia, m'accuse de vouloir péter la tête du traître. Me voilà fugitif, vite, je prends mon fusil vise. J'attends quelqu'un témoin, qui sait? On me répond, c'est pour un emploi, je me présente, on me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo, du 20-1, le black mafiosi, Poutine au mont, voisin du crime, chef des casinos, il me semble que c'est urgence, ce soir on verra les urgences, le contrat est sur toi, Poutine, il faut qu'on s'organise, faire flipper la firme, quelle balise, qu'on se verbalise, piège la valise du boss, dynamite sa caisse, réunis la tête, c'est pour les dégâts, les on sait déjà.
Oh écoute, Booba, je sais, au Bloopalooza, c'est la coupe douce, si t'as l'aine cruiser, pousse bien, on est là-bas pour 12 heures. Toc, 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 salut Bloopalooza, sale schlock. T'as bien raison de flipper, j't'ai retrouvé chez équipe de mon clutch. Le macaque me sent son magnum, ne blague pas, me nomme le magmore, me braque et ne me manque pas. Touché au bras gauche, fausse blessure. J'mets un coup de pied dans la crosse et sans un sur un de ma chaussure. J'lui fous un coup de couteau sous son cou, tout son juice coule jusqu'à son poumon, ça c'était pour mon crew. Enfoiré, tu croyais que t'allais me tuer, mais tu es fou quoi. Autant évacuer la Chine en une nuit. Et puis, je veux pas te tuer, non. Dis pas merci, Booba, tu cette merde puante. Qu'on se casse d'ici, j'entends.
Les sirènes, c'est les keufs. Oublie les keufs, foutre, prends ton pouce, cache-le dans ta manche gauche.
Blouson,
passe-moi le blouson.
Lâche la cocaïne aux chiottes.
Démarre la dip, on se casse loin d'ici. Oxmo, Puccino.